Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent du lundi au vendredi à 19h à Bamako sur le 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, il y a 11 ans, le président du Mali, Amadou Toumani Traoré, a été renversé par un coup d'État. Deux experts maliens décriront pour nous les causes et le contexte qui ont conduit à cet événement. Ouagadougou souhaite développer le commerce avec Moscou. Le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso est revenu sur les axes de développement des relations russo-burkinabé dans un entretien exclusif. La Russie pourrait commercer avec les pays africains en yuan. Une experte béninoise en développement et économie se penchera sur les raisons de cette initiative et de sa portée pour le continent africain. Le plan chinois de règlement du conflit en Ukraine a été accueilli favorablement par Moscou. Un ancien député du Parlement ukrainien commentera ce projet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a proposé dans une interview que son pays fasse office d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Un expert sécuritaire et de défense suggérera les raisons pour lesquelles l'Algérie est bien placée pour y parvenir. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. La représentante en Russie d'un parti ivoirien indiquera pourquoi cette décision est juridiquement nulle et non avenue. Chers auditeurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Remontons dans le temps. Il y a 11 ans, un coup d'État a renversé le président malien Amadou Toumani Traoré. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et le docteur Ali Di Agali Wele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, sont revenus sur les causes et les conséquences de cet événement encore perceptibles aujourd'hui. Ils ont également évalué les solutions proposées par la Russie pour mettre un terme à la crise sécuritaire qui touche la région. Monsieur Tounkara, il y a 11 ans, le président Amadou Toumani Traoré a été renversé par un coup d'État. Pouvez-vous rappeler et décrire le contexte qui y a conduit, s'il vous plaît ?
Bon, c'est vrai que les contextes qui ont sous-tendu son renversement sont pluriels, mais il y a une connexion de facteurs. Parmi ces facteurs, on aime rappeler l'intervention de l'OTAN en Libye. C'était une évidence parce que cette intervention a vu le retour des Maliens qui avaient été enrôlés dans l'armée d'Agamaïa en Libye. Mais l'élément déclencheur de ce renversement du président Toumani Traoré, c'est le fait que les militaires maliens qui étaient au nord du pays, avec l'arrivée des Maliens qui étaient anciennement enrôlés dans l'armée libyenne, se sont vus très affaiblis en termes d'équipement, en termes de soutien logistique, même en termes de vivre de la part du président Amadou Toumani Traoré. Donc, pour dire que les différents états-majors n'avaient ni les équipements nécessaires pour faire face à la rébellion, mais dans le même temps, des autres besoins très basiques, l'alimentation, voilà, les conditions de vie n'étaient pas du tout idoines. C'est à la suite de tout cela que nous avons assisté à des officiers, sous-officiers en particulier, qui sont descendus de Kati vers Bamako pour procéder au renversement de la présidence ou du régime d'Amadou Toumani Traoré. Donc, en fait, il y a trois facteurs majeurs à retenir. L'invention de l'OTAN en Libye, le retour des Maliens qui étaient anciennement dans l'armée libyenne, se sont même greffés par les rebelles et par les terroristes. Le complément important de l'analyse également, c'est aussi le fait qu'au niveau de l'offre de la demande de sécurité, il y avait des insuffisances liées aux aspects logistiques, d'autres insuffisances liées même au management sécuritaire. Voilà. Et tout ceci a contribué, en tout cas, à expliquer la chute du président Amadou Toumani Traoré, sans oublier quand même que cette partie du Mali, il y a des populations qui peinent à reconnaître l'État en tant qu'entité autonome, en tant qu'entité indépendante.
Monsieur Ouellet, comment voyez-vous la situation du pays à cette époque ?
Ce qui a amené le renversement du président Hatete, en fait, il y a plusieurs facteurs qu'il faut analyser. Parce que au moment où le président Hatete a été renversé, il y avait plusieurs conditions qui étaient réunies. Il y avait des conditions socio-économiques à l'interne. Il y avait des pressions, il y avait des soulèvements, des revendications socio-syndicales qui étaient déjà vraiment d'ordre général. Et ensuite, il y avait un mécontentement vraiment plus fort au sein de la classe politique et au sein de la société malienne. Et ce qui a fait que les choses se sont précipitées parce qu'il y avait des raisons politiques. Et en dehors de cela, il y a des facteurs exogènes qui ne sont pas forcément liés au Mali, mais qui sont liés au voisinage. Et ensuite, il y a des facteurs politiques dans le cadre de la coopération. Et quand on multiplie tous ces facteurs, je prends l'exemple de la crise libyenne. La crise libyenne a contribué à fragiliser le nord du Mali. La crise libyenne a contribué à être un facteur aggravant du conflit au nord. Parce que après la chute de Kadhafi, il y a des gens qui se sont retrouvés au nord du Mali. Et on a vu des troupes même accueillies au nord du Mali par nos autorités en son temps. Et malheureusement, s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Et en plus de cela, l'armée malienne a perdu vraiment assez d'assanant sur la gestion du nord. Parce qu'il y a eu des crises profondes et on assistait à des tueries et les militaires étaient les plus souvent victimes.
Monsieur Tunkara, comme l'a dit Monsieur Ouellet, tout ce qui s'est passé au Mali est étroitement lié aux événements en Libye. Et plusieurs observateurs de la crise au Sahel estiment que l'Occident porte une responsabilité particulière dans la déstabilisation de la région sahélienne et la crise en cours au Mali par l'intervention de l'OTAN en Libye. Pensez-vous que la crise sécuritaire actuelle au Mali est un contre-coup direct de la guerre de l'OTAN en Libye ? Comment expliquez-vous ?
La guerre de l'OTAN en Libye à elle seule ne peut pas expliquer. Parce que le Mali n'est pas le seul pays quand même du Sahel. Pourquoi d'autres pays n'ont pas succombé ? Cette guerre en Libye est un facteur important. Clairement, dans la chute ou dans ce qui se passe au Mali aujourd'hui avec le groupe radical violent. Mais cette chute a favorisé le retour des Maliens qui étaient extrêmement, comme je disais tantôt, enrôlés dans l'armée libyenne. Mais cela aussi s'est ajouté à des volontés sécessionnistes qui sont quand même anciennes à la suite de Mahmoud Gaddafi à la Libye. L'élément déclencheur, ou en tout cas, ce qui est très soutenable du point de vue analytique, le soutien réel ou supposé qu'on accorderait à ces rebelles et terroristes face à une armée malienne, peu équipée face à une armée malienne, qui avait perdu le moral face à une armée malienne, ou les différents états-majors, comme ça avec l'armée de l'air, l'armée de terre, ou même la garde nationale, ou les forces de sécurité, les besoins pressants n'avaient pas été satisfaits en termes d'équipement, les besoins pressants n'étaient même pas du tout satisfaits. En termes des besoins basiques tels que l'alimentation, le logement. Donc ce sont ces carences internes à l'armée malienne qui ont beaucoup précipité la chute du président Amadou Toumani Touré. Maintenant, l'insécurité aujourd'hui qui se vit au nord du Mali, une bonne partie du Sahel, on ne peut pas l'expliquer sans situer la responsabilité des axes rebelles qui ont quand même accepté non seulement de pacter avec les groupes terroristes, mais dans le même temps, ils ont aussi défait l'armée malienne avec ces groupes terroristes. Et ce qui a fait persister l'insécurité, c'est aussi également l'intervention de la France au lendemain, justement, de cette rébellion, laquelle intervention s'est efforcée lors des premiers processus ou lors des premiers pourparlers de paix à Ouagadougou de différencier les rebelles des terroristes. Or, ce sont ces deux acteurs quand même qui ont mis l'État malien en difficulté. Ce sont ces deux acteurs qui sont même très liés du point de vue anthropologique parce que ce sont des cousins, des frères, donc une véritable parenté entre eux. Donc ça, ça a été une grosse erreur de calcul, ou en tout cas, si c'est fait sciemment, moi je trouve l'élément le plus important, le fait que la communauté internationale, au nom de la lutte contre le groupe radical violent, a accepté de différencier les rebelles des terroristes. L'erreur du Mali est née de là, C'est de là également que le terrorisme s'est propagé de manière spectaculaire dans les frères. Donc, un distinguo qui ne tient pas à l'analyse, parce que rebelles et terroristes, pendant l'occupation des régions du nord du Mali, agissaient de concert, mais vouloir à tout bout de champ avoir une distinction entre rebelles et terroristes, naturellement, cela a beaucoup favorisé l'extension du terrorisme, à la fois au Burkina Faso, au Niger, de plus en plus vers des pays côtiers.
Amadou Toumani Traoré et aussi l'Union africaine avaient rejeté et ensuite dénoncé l'intervention franco-britannique et de l'OTAN contre le régime du colonel Kadhafi. Pourquoi les positions des institutions africaines n'ont pas été considérées sur la question libyenne ?
Alors, c'est vrai qu'en fait, les dirigeants africains d'alors, même aujourd'hui, sont toujours traversés par des interférences. Malheureusement, ce sont des dirigeants majoritairement qui sont inféodés à des régimes occidentaux. Et cette attitude de s'inféoder à des offres qui sont proposées par des pays, en l'occurrence la France, les États-Unis et même l'Angleterre, expliquait pourquoi la voix de l'Union africaine n'avait pas été entendue lors des discussions. Donc, objectivement, au-delà de dénoncer l'intervention de l'OTAN en Libye, ces chefs d'État africains restent jusqu'ici, malheureusement, très traversés par des interférences des puissances occidentales. Ce sont ces interférences-là qui font que ces chefs d'État ne sont jamais plus sérieux par l'Occident.
Et vous, Monsieur Wele, que pensez-vous de cette attitude à l'égard de l'Afrique ?
Et la position des dirigeants africains, le plus souvent, n'est pas, on ne les respecte pas, on ne tient pas compte forcément. Souvent, les gens font des paravents, ils font semblant. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autorités africaines qui sont dans une soumission aveugle. Il y a des responsables africains, en fait, qui ne s'assument pas. Et c'est comme si c'est des paravents, c'est comme si c'est des gens qui sont à des missions vraiment et recommandées. Et ce qui fait qu'en fait, ils ne s'assument pas devant certains pays, certaines puissances. Et quand les puissances décident, ils n'ont pas les choix, ils sont devant les faits, malheureusement. Et c'est pourquoi toutes les institutions africaines, quand vous regardez, c'est les puissances qui gèrent. Ils sont là juste comme figurants. On fait un montage. En réalité, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de répondants. Et c'est dommage. Et sinon, africains, on ne les écoute pas. Quand l'OTAN décide, l'Union africaine ne peut rien faire. Parce qu'ils sont dans la soumission totale, ils n'ont pas de force, ils ne peuvent pas repousser, ils ne peuvent pas répliquer. Ils ont quel moyen, quelle force pour pouvoir se défendre. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi ils subissent, nous subissons tous ce problème. Et c'est général. Et c'est la force qui règne dans ce monde-là. La force, c'est la puissance de la force militaire qui règne. La force économique. Et ces différents facteurs mis ensemble, ceux qui n'ont pas les moyens, les ressources, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas se justifier, ils ne peuvent pas se faire entendre le plus souvent.
Et quelles sont les solutions possibles, selon vous, pour mettre un terme à cette crise sécuritaire au Mali et au Sahel en général ?
Et pour mettre cette crise au niveau du Sahel, la première chose, il faudra considérer que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des êtres humains. Et que nos pays ont besoin d'un secours, d'un appui suffisant pour endiguer ces problèmes. Et pour qu'on puisse finir avec ces problèmes, il est important qu'à l'interne, notre pays puisse prendre des dispositions sécuritaires, renforcer, comme on dit, la maîtrise de son territoire, renforcer ses équipements militaires, former la population dans le cadre du civisme, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder l'intérêt général, l'intérêt particulier du pays. Parce qu'avec la crise économique, avec la pauvreté, avec le chômage, c'est plus facile de prendre la jeunesse, les braves valides, à travers un minimum pour qu'ils puissent vraiment se retourner contre le pays. Et malheureusement, c'est ce qui se fait parce qu'ils recrutent au sein de la population. Même s'ils viennent, ils recrutent au sein de la population. Et le plus souvent, c'est ces opérations qui continuent. Et en même temps que les pays voisins se donnent la main, dans la sous-région, que nous ayons des hommes politiques, des responsables, qui s'assument pour l'intérêt général de nos populations. Et au sein du Mali, c'est bon que les autorités maliennes qui viennent s'assument, qui voient l'intérêt général du Mali, et non l'intérêt d'un autre pays particulier qui nous dicte des choses. On doit avoir notre souveraineté par rapport aux décisions. On doit nous écouter par rapport à certaines décisions. Et je prends l'exemple quand le Mali a demandé l'appui aérien. Et ce qu'on nous a dit, il semblerait qu'au lieu de l'appui aérien, les gens sont venus par rapport à l'appui terrestre qui n'était pas demandé. Et ils n'avaient aucune force, aucun moyen de pouvoir dire non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi-même, je pose la question aujourd'hui, pourquoi ces autorités n'ont pas répliqué, pourquoi ils n'ont pas dit qu'on avait besoin de l'appui aérien et non de l'appui terrestre ? Et voilà comment les choses se passent. On fait semblant, entre guillemets, de venir nous aider, et je ne pense pas forcément que c'était le cas. Les gens viennent pour des intérêts que nous ne connaissons pas, des plans qui sont élaborés, des stratégies qui sont élaborées, que nous ignorons, et ils mettent en œuvre au détriment de la population, au détriment des bénéficiaires.
Et vous, Monsieur Tunkara, quelles sont les solutions qui vous semblent les plus réalistes ?
Alors, parmi les solutions qui font consensus dans toutes les analyses sérieuses, c'est de responsabiliser les organisations régionales et sous-régionales dans la lutte. Par exemple, aujourd'hui, si l'on veut réellement assister à un Sahel beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, c'est de transférer tous les mandats de l'ONU, par exemple, au Mali, à la CEDEAO. Donc, ce sont les pays contributeurs de la CEDEAO qui vont évoluer sous un même commandement, sous un même état-major, et lutter efficacement contre le groupe radical violent dans les pays qui sont aujourd'hui minés. Je vais être sérieux avec la lutte. L'autre élément important, il ne s'agit pas de venir avec tout l'arsenal comme l'avait fait la France, ou tout l'arsenal comme les fonds civils des États-Unis, ou comme les fonds civils de la France d'ailleurs au Niger ou dans certaines parties du Sahel, mais plutôt à comment permettre à ces armées sahéliennes, sous coupole d'une organisation régionale ou sous-régionale, d'avoir accès à ces équipements et assurer en dernière instance toutes les formations nécessaires à la lutte contre la nébuleuse terroriste, notamment les questions de cybercriminalité, les questions de preuves numériques. Voilà, ce sont entre autres ces aspects qui peuvent permettre aujourd'hui à l'Afrique, même dans un avenir proche, de lutter efficacement contre le groupe radical violent. Aucunement, si l'on regarde aujourd'hui la nature de lutte qui se passe sous nos yeux, le fait que le Mali évolue seul à la limite, le Niger évolue seul, le Burkina évolue seul, même si Burkina et le Mali ont commencé à reprendre certaines actions militaires, on ne peut arriver ou on ne peut stopper cette avancée des groupes radicaux violents que si seulement si les États sahéliens acceptent ou accepteraient d'agir de concert sans interférence. C'est quand même extrêmement important. Quand je dis sans interférence, parce qu'on n'a jamais entendu la CEDEAO, voilà, de dire, bon, on va quand même envoyer ou on va mettre en place un état-major qui aura en charge, voilà, enfin, au-delà des déclarations, ce ne sont que des simples déclarations, on va mettre tout en place, oui, on a une force en attente, c'est pas ça. Maintenant, objectivement, il faut aller à partir de l'existant. On a beaucoup de pays contributeurs dans la mission onusienne au Mali, notamment les pays voisins comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, même la Guinée. Il s'agit de faire en sorte que ces pays contributeurs évoluent sous la tutelle de la CEDEAO ou de l'Union africaine. C'est le seul gage aujourd'hui d'arriver au bout de l'insécurité. Sinon, les actions isolées ne vont aucunement permettre d'apaiser le Sahel.
Le ministre Lavrov a évoqué la volonté de son pays à soutenir d'autres pays de la zone sahélienne. Comment, selon vous, la Russie peut-elle aider les pays du Sahel à faire face aux défis sécuritaires ?
Je pense que l'important qu'elle demande d'abord aux pays du Sahel, d'exprimer clairement ses besoins de soutien et de ce qu'ils veulent comme soutien, ça c'est extrêmement important. Parce que la Russie, elle est quand même victime aussi de ce complot de la part des anciens partenaires de ces pays sahéliens. Donc, il est de la responsabilité de ces mêmes pays sahéliens de s'assumer face à l'histoire. Mais une fois que cette volonté de s'assumer est née, peut ainsi clairement exprimer ce dont ils ont besoin en termes de soutien, notamment ce sont les questions d'équipement qui manquent aujourd'hui aux armées en proie aux attaques terroristes. Ce sont les questions liées à la formation des instructeurs que la Russie peut mettre à disposition, d'équipements militaires très modernes que la Russie peut justement fournir. Mais lesquels équipements doivent être le reflet des demandes exprimées ou des demandes formulées par ces États. Une fois que cela est fait, il faudrait que ces États sahéliens également aient le courage de se soustraire des influences, de se soustraire des interférences, sans lesquelles courage, malheureusement, tous les efforts qui vont être entrepris par la Russie vont être hypothéqués parce qu'ils ne vont pas arriver au bout du tunnel. Donc je pense que, comme ça avec la Russie, comme ça avec les États-Unis, comme ça avec la France, les aides ne doivent pas faire l'objet d'interférences. Les aides doivent s'inscrire dans une logique de gagnant-gagnant. Mais je pense que, malheureusement, la lecture qu'on peut faire du Sahel, ce sont des aides qui font non seulement les Sahéliens de gros enfants, mais dans le même temps, ces Sahéliens dirigeants en l'occurrence, ont fini par accepter le statut de gros enfants. Donc je pense que si on ne casse pas cette attitude de dépendance vis-à-vis des puissants, il va être très compliqué qu'on arrive que les différents soutiens qui vont être accordés par la Russie aient tout l'impact nécessaire sur le pays.
Et vous, M. Wele, comment voyez-vous le rôle de la Russie dans la résolution de la crise ?
Vous savez, s'il y a un pays qui peut aider par rapport aux défis sécuritaires, je dirais l'un des pays les plus sûrs, fiables, c'est actuellement la Russie. C'est actuellement la Russie. Parce que la vision politique de la Russie, la vision de leur président par rapport à la gestion, comme on dit, des pays sous-développés, la vision du président Poutine par rapport à l'impérialisme, c'est une vision qui est très claire et qui a toujours existé. Et même pendant la lutte coloniale, la lutte de l'indépendance, tout le monde connaît l'historique. Poutine était le fervent défenseur des pays qui étaient sous colonisation. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est engagé. Et si quelqu'un peut nous aider aujourd'hui, la Russie fait partie. Et cette Russie a montré déjà la volonté de pouvoir aider le Mali. Et quand vous regardez aujourd'hui au Mali, les Maliens sont fiers parce qu'on parvient quand même aujourd'hui, quand il y a une attaque au Mali, n'importe quel endroit, les autorités militaires ripostent. Et ça, ce n'était pas possible. On attendait tous les jours des villages brûlés, des attaques. Il n'y avait même pas de riposte, le minimum de riposte. Et aujourd'hui, le Mali est réellement à le minimum pour pouvoir faire face à certaines réactions des djihadistes. Et c'est pourquoi ils ont déplacé le système. Au lieu d'aller attaquer au front, non, ils font des attaques au niveau des postes de péage, dans les villes, pour rien la faire. Parce qu'ils sont en débandade. Et ça, c'est la Russie qui nous a aidés, qui nous a facilité l'acquisition de ces biens militaires, de ces biens, comme on dit, aéroportés.
C'était le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et le docteur Ali dit Agali Ouélé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Ils sont revenus à l'occasion de l'anniversaire du coup d'État contre le président malien, Amadou Toumani Traoré, sur les causes qui l'ont entraîné. Les interlocuteurs de Spoutnik Afrique ont ensuite mis en avant les solutions qui existent pour mettre fin au conflit et évoquer l'appui que la Russie peut proposer dans cet objectif. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Un autre pays du Sahel confronté à une crise sécuritaire est le Burkina Faso. Ouagadougou peut compter sur le soutien de la Russie dans sa lutte contre le terrorisme, mais veut maintenant aller plus loin. Pour les autorités burkinabées, la coopération avec Moscou doit également se renforcer dans le secteur économique. Pour rappel, en décembre dernier, le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambela, s'était rendu en Russie. Lors d'une interview, il avait appelé le monde des affaires russes à venir dans son pays et souhaitait avoir plus de produits russes dans son pays. Présent à Moscou pour la conférence Russie-Afrique, le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a accordé une interview exclusive à la correspondante de Spoutnik, dans laquelle il donne les axes de développement de la coopération russo-burkinabé.
Alors, Monsieur le Président, le thème du sommet était Russie-Afrique dans le monde multipolaire. La Russie se dit, affirme, œuvrer pour changer l'ordre mondial. Alors, comment appréciez-vous les changements actuels dans le monde que la Russie a provoqués ?
Merci beaucoup. Ce thème est un thème qui vient à un moment capital. Parce que le monde subit actuellement beaucoup de changements. Et c'est bien que la Russie anticipe sur l'évolution pour un monde multipolaire, d'où le pouvoir n'est pas centralisé au niveau d'un État, mais réparti entre plusieurs États sur plusieurs continents. Donc ce thème nous a invités à réfléchir ensemble comment construire ce monde multipolaire pour l'avenir, pour plus de paix. Et c'était avec vraiment un réel plaisir que le Burkina Faso a pris part à cette conférence où nous, en tant que parlementaires représentant les peuples, nous essayons de voir aussi quelle peut être la contribution des parlements à ce débat-là.
D'accord. Et pour la coopération entre le Burkina Faso et la Russie, à votre avis, dans quel domaine cette coopération doit être renforcée?
Alors, je précise que c'est le gouvernement du Burkina Faso qui conduit la coopération au niveau international. Il y a bien sûr la diplomatie parlementaire et nous, en tant que parlementaires, nous accompagnons le gouvernement dans ce sens. Au regard de la priorité de la transition au Burkina Faso, la priorité en termes de coopération, c'est d'abord le domaine de la sécurité et de la défense. Pour aider le Burkina Faso et pour voir avec la Russie comment la Russie peut apporter un soutien au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Autre domaine de coopération possible, c'est le domaine économique. Et dans ce domaine-là, on peut citer notamment le transport, l'agriculture, tout ce qui concerne l'énergie, les hydrocarbures. Mais le domaine prioritaire en termes de coopération, c'est véritablement la défense pour le Burkina Faso.
Alors, nos deux gouvernements ont exprimé leur volonté pour créer une commission gouvernementale mixte. Est-ce que au niveau du Parlement, y a-t-il des discussions pour avoir une commission mixte aussi?
Oui, alors...
Le souhaitez-vous peut-être?
Nous avons été reçus en audience par le président de la Douma d'État, M. Volodine, et nous avons convenu de mettre en place un groupe d'amitié, ce qui est l'équivalent de cette commission mixte. Donc ce groupe d'amitié parlementaire va avoir le jour prochainement et des parlementaires burkinabés et russes vont pour travailler ensemble, partager les expériences et voir comment nous pouvons renforcer la coopération entre nos deux pays.
Oui, et est-ce que vous avez précisé peut-être des futures visites pour mettre en place ce groupe d'amitié?
Exactement.
Quand est-ce qu'on peut...
Le président Volodine nous a donné l'assurance d'une visite au Burkina Faso avant le mois de juillet.
Mm-hmm. Lui-même, il veut venir?
Lui-même, il souhaite venir au Burkina Faso avant le mois de juillet. Et, le mois de juillet, il y a la conférence, bien sûr, où nous sommes également invités. Donc, c'est dire que... Et entre-temps, il a été aussi demandé à ce qu'une délégation du Burkina Faso revienne en visite officielle au niveau de la Russie. C'est dire que les relations entre ces deux pays vont s'approfondir progressivement. Des missions vont se mener de part et d'autre. Donc, c'est un début et nous allons progressivement aller ensemble.
Il y a une volonté exprimée.
Il y a une volonté exprimée de part et d'autre. Nous avons été très bien accueillis. Il y a une volonté véritablement marquée au niveau du gouvernement, au niveau de la Douma d'État, de nous accompagner. Et de notre côté aussi, il y a cette volonté d'améliorer, d'approfondir la coopération entre nos deux parlements.
D'accord. Alors maintenant, j'ai une question sur le retrait des militaires français. Alors le Burkina a exigé le retrait de toute la présence des militaires françaises au pays. Mm-hmm. Pourriez-vous me dresser le bilan de cette présence militaire dans votre pays au cours des années passées?
Alors il y a eu cette présence des militaires français au niveau du Burkina Faso et justement c'est parce que le bilan n'était pas très satisfaisant au regard de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement burkinabé a demandé le retrait des militaires français. Dans l'accord qu'il y avait avec la France, cette présence visait à apporter un appui à l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le constat, malheureusement, c'est que le terrorisme ne faisait qu'avancer. Donc, le gouvernement s'est décidé à arrêter cet accord-là parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, l'armée française s'est retirée du Burkina Faso actuellement et l'armée burkinabé s'est réorganisée et actuellement monte progressivement en puissance en termes de lutte contre le terrorisme.
D'accord. Et ma dernière question, c'est... Alors, l'Iran a annoncé récemment créer une banque commune entre l'Iran et les pays africains. Alors, quel horizon cette banque pourrait ouvrir à l'Afrique et au Burkina? Alors, est-ce que vous pensez que la Russie doit peut-être faire une telle banque aussi?
Oui, pourquoi pas. Alors, dès lors que on commence à approfondir la coopération avec un pays, la coopération, c'est à la fois au plan diplomatique, mais c'est aussi et surtout au plan économique. C'est dire qu'il y a des flux en termes de marchandises entre les deux pays qui vont se faire. Et pour financer tout cela, il est bon qu'un système financier ou une banque puisse se mettre en place. Si vous venez de donner l'exemple de l'Iran qui se met en place, je n'ai pas une idée d'horizon temporel à laquelle cette banque peut s'installer au Burkina, mais c'est dire qu'au niveau de la Russie aussi, s'il y a le développement de la coopération avec la Russie dans les secteurs clés de l'économie, il est bon aussi de voir comment, au plan financier, on pourrait avoir une banque, pourquoi pas, qui s'installe au Burkina Faso et qui peut être un vecteur à la fois pour financer les activités sur place, mais aussi dans les rapports entre le Burkina Faso et la Russie. Cela faciliterait beaucoup les échanges. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on a la volonté effectivement d'importer beaucoup de choses au niveau de la Russie, mais l'on peut avoir des difficultés par rapport aux transactions. Voilà. Mais si l'on a une institution financière qui connaît le commerce international avec ses contraintes et qui est le répondant, qui est le relais sur place, cela va faciliter beaucoup les activités de nos hommes d'affaires.
C'était Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Il a commenté à notre micro les perspectives de renforcement de la coopération de son pays avec la Russie dans le commerce et s'est prononcé pour la création d'une banque russo-africaine afin de faciliter les échanges. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de se brancher sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La création d'une banque russo-africaine, dont la correspondante de Spoutnik a parlé à Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative et de la transition du Burkina Faso, prendra certainement du temps. Cependant, la méthode proposée par Vladimir Poutine pour faciliter les échanges avec les pays africains et ainsi échapper au diktat du dollar pourrait être mise en œuvre dans un avenir proche. Le président russe a déclaré être favorable à l'utilisation du yuan pour les échanges commerciaux de la Russie avec les pays africains. Cette monnaie chinoise serait également utilisée pour les règlements avec l'Asie et l'Amérique du Sud. Au micro de Spoutnik Afrique, Aline Asantpon, experte béninoise en développement et économie, se penche sur les raisons de Moscou et la portée d'une telle initiative pour le continent africain. Écoutons-la.
Pour moi, la position que la Russie adopte aujourd'hui vis-à-vis du continent africain me paraît comme, un revirement spectaculaire. La Chine est déjà présente sur le continent africain, avec une coopération très offensive, puisque la Chine semble être plus avancée sur le continent que la Russie, parce que la Russie intervient dans les ressources minières, surtout dans la fourniture des armes, l'armement. Et la Chine, elle intervient dans la réalisation de grandes infrastructures en Afrique. Donc, maintenant, commercer avec le yen, la monnaie chinoise, je ne saurais dire exactement l'avantage pour l'Afrique. Et la Chine, avec le yen, n'a jamais eu de gêne pour entretenir des relations commerciales avec les pays africains. Tandis que pendant longtemps, la Russie a toujours utilisé l'euro, auquel une bonne partie du continent africain est arrimée, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, si la Russie décide de faire des affaires avec le continent à travers la monnaie chinoise, c'est la preuve que la Russie est en train de tourner dos à l'Union européenne. qui est plutôt focalisé sur l'aide au développement. Je peux aussi dire que la Russie est en quête de nouveaux marchés. La Russie doit avoir des raisons vraiment sérieuses de vouloir commercer avec la monnaie chinoise. Sinon, ben, comme je l'ai dit plus haut, la Chine est déjà sur le terrain. Aujourd'hui, il est clair que Pékin profite du vide laissé par le retrait des pays occidentaux qui sont plus frileux à financer des projets. Et ça, ça peut cacher un piège parce que il faut quand même que qu'on fasse attention au piège de la dette parce que rien n'est fait de façon gratuite. Je suis de ceux qui pensent que il faut pas avoir la main tendue tout le temps. Non. Il faut s'affirmer. Et comment s'affirmer, c'est travailler dur. Travailler dur. Et il faut créer de la richesse sur place. Il faut créer de l'emploi.
C'était Aline Asankpon, experte béninoise en développement et en économie. Elle a évoqué les raisons qui pourraient pousser la Russie à opter pour le yuan dans ses échanges commerciaux avec l'Afrique et les perspectives éventuelles pour le continent. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les règlements au yuan pour le commerce avec l'Afrique étaient un des nombreux sujets abordés par les chefs d'État russes et chinois lors de leur entretien à Moscou. Xi Jinping a récemment effectué sa première visite à l'étranger depuis sa réélection. Et c'est en Russie qu'il s'est rendu pour la première fois depuis 4 ans. Parmi les autres questions discutées par les deux leaders, il y avait la coopération bilatérale, la situation en Ukraine et le plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit. Vladimir Poutine a estimé que les idées chinoises sont conformes aux approches de la Russie et peuvent servir de base à un règlement pacifique lorsque l'Occident et Kiev seront prêts. Pour Spoutnik Afrique, Oleg Tsarev, ancien député ukrainien qui est maintenant poursuivi par le régime de Kiev, a donné ses analyses sur le plan de paix chinois et suggéré les raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pourrait l'accepter. Lors de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, le plan de paix chinois sur l'Ukraine a été discuté, un plan qui est généralement bien accueilli à Moscou. Dans le même temps, les médias occidentaux rapportent que si Kiev accuse ouvertement l'Allemagne et la Hongrie d'entretenir des liens trop étroits avec Moscou, Zelensky et les dirigeants ukrainiens évitent de critiquer ouvertement la Chine. Selon ces médias, Kiev voudrait conserver les investissements chinois dans l'économie ukrainienne. Qu'en pensez-vous et selon vous, est-ce que cela augmente-t-il les chances d'une médiation réussie de Pékin dans le conflit ukrainien ?
Jusqu'à récemment, les États-Unis ont conçu leur politique de manière à provoquer continuellement des conflits et à dresser les pays les uns contre les autres dans l'une ou l'autre partie de la planète. Il reste ainsi l'hégémon. Apparemment, la Chine a proposé un concept radicalement différent, celui de la coexistence pacifique, de l'établissement de relations. Nous ne savons pas encore très bien comment les choses vont évoluer. Quoi qu'il en soit, en appliquant cette politique, Pékin gagne des points en matière de politique étrangère. La Chine et les États-Unis revendiquent tous deux un rôle de premier plan dans le monde. Et pourquoi Kiev se trouverait-il des ennemis alors que les États-Unis sont loin et que la Chine est là? Les États-Unis sont en crise et la Chine se développe. Il n'est donc pas nécessaire de se quereller avec elle. En particulier, il n'y a pas lieu de se disputer avec son dirigeant Xi Jinping. Il a été élu et le restera encore longtemps et personne ne souhaite avoir un tel ennemi. D'autant plus que l'histoire de toutes les guerres montre que les États-Unis profitent simplement des autres pays. Et Zelensky comprend que si, par exemple, sa contre-offensive ne réussit pas, ce que nous espérons bien, il est fort possible que l'Occident se rende compte qu'il est inutile de fournir des armes et de dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Et Zelensky se retrouvera avec un pays en ruine et les familles des morts. L'Ukraine compte donc sur les investissements chinois pour reconstruire le pays. Il ne sert à rien de se disputer avec Pékin.
Vous pensez donc que, dans une certaine mesure, le plan de paix de Pékin pour résoudre le conflit pourrait même être accepté à Kiev par les dirigeants ukrainiens actuels ?
C'est tout à fait possible. Il est évident que les négociations ne sont pas possibles pour l'instant. L'Ukraine a accumulé des forces armées le long des lignes de front, avec des soldats formés par l'Occident. Il y a environ 1000 véhicules blindés, des bombes légères, une défense antiaérienne, des drones. L'Occident fournit environ 1 million d'obus de calibre 155 mm seulement. Tout cela en vue de la grande offensive des forces armées ukrainiennes à laquelle tout le monde s'attend désormais. Et c'est sur la base de ces résultats que des accords seront élaborés. Selon toute vraisemblance, le conflit sera gelé cette année. Je pense que le temps des négociations n'est pas encore venu, mais Pékin a montré ses intentions. Il a annoncé son plan et le moment viendra. D'autre part, nous ne savons pas dans quelle mesure Pékin sera disposé à faire aboutir ce plan. Globalement, la Chine mise sur le temps. Les Chinois savent attendre. Et tôt ou tard, les choses se déroulent comme ils le souhaitent. Mais peut-être répondront-ils aux livraisons intensives d'armes de l'Occident à l'Ukraine, en fournissant également des armes à la Russie. De 2013 à 2018, des armes d'une valeur de 20 milliards de dollars ont été livrées par la Russie à la Chine. En fait, l'armée chinoise a été réarmée à l'aide d'équipements soviétiques. Et si une partie au moins de cet équipement est restituée à la Russie, la situation changera radicalement. Mais ce n'est peut-être même pas la Chine qui fournira cet équipement, mais la Corée du Nord, par exemple. Aucune plainte ne peut être déposée contre la Chine dans ce cas. La Russie peut fournir à la Corée du Nord les denrées alimentaires dont elle a toujours besoin. En même temps, la Corée du Nord est un satellite de la Chine. Et l'avis de la Chine sur la question de savoir s'il faut ou non fournir des armes est très important. La Chine dispose de nombreux leviers pour faire valoir sa position. L'avenir nous dira si ces leviers seront utilisés et dans quelle mesure. Mais la réaction de l'Occident suggère que la visite de Xi Jinping a été accueillie avec une grande irritation. Le premier ministre japonais s'est immédiatement rendu en Ukraine. Biden a fait adopter une loi visant à déclassifier le matériel relatif au coronavirus. Il s'agit là d'une pression claire sur la Chine. La menace que les États-Unis l'accusent d'avoir propagé le coronavirus et imposent des sanctions. Il s'agit également de l'accélération de l'envoi de chars d'assaut des États-Unis à l'Ukraine. Tout cela montre qu'en Occident, la visite a été notifiée et qu'elle suscite une réaction très sérieuse. Il y a peut-être quelque chose que nous ignorons, mais que les dirigeants occidentaux savent. C'est pourquoi ils réagissent à ce point. Après tout, il n'était pas nécessaire que Xi Jinping se rende à Moscou uniquement pour annoncer une nouvelle fois son plan de paix. Et probablement que s'il n'y avait pas eu quelque chose d'autre derrière, sa visite n'aurait pas provoqué une réaction aussi forte.
C'était Oleg Tsarev, ex-député du Parlement ukrainien. Au micro de Spoutnik Afrique, il a analysé le plan de paix proposé par Pékin afin de régler le conflit en Ukraine. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je vous présente mon émission Zone de Contact. La Chine n'est pas le seul pays à offrir son aide pour résoudre le conflit ukrainien. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a proposé dans une interview que son pays fasse office d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Cette proposition a de quoi interroger. Récemment, Alger a rouvert son ambassade à Kiev qui était fermée depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. La diplomatie algérienne avait déclaré que cette décision intervenait dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l'État dans ce pays ainsi que de ceux de la communauté nationale. Pourtant, dans le même temps, Alger s'est rapproché encore plus de Moscou. La présidente du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a été reçue en grande pompe en Algérie et le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a annoncé qu'il se rendrait en Russie en mai à l'invitation de Vladimir Poutine. Au micro de Spoutnik Afrique, Akram Kariev, expert sécuritaire et de défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense, suggérera les raisons pour lesquelles l'Algérie est bien placée pour devenir intermédiaire entre Moscou et Kiev. Écoutons-le.
C'est quelque chose qui est à prendre au sérieux. Même si jusqu'à maintenant aucun effort de médiation n'a été fait ou entrepris du côté algérien, c'est peut-être l'occasion pour le nouveau ministre Ahmed Attaf de s'y atteler. L'Algérie maintient de très bonnes relations avec l'Ukraine et d'excellentes relations avec la Russie. Pour rappel, l'Ukraine maintient une ambassade ouverte et proprement staffée à Alger et Alger a suspendu l'activité de son ambassade en la transférant en Roumanie juste après le début de l'opération spéciale, l'opération militaire spéciale. Donc l'Algérie compte rouvrir son ambassade à Kiev maintenant que la situation dans la capitale ukrainienne est plus ou moins stabilisée et sûre. Donc L'Algérie a beaucoup d'avantages, donc cette neutralité, le fait que les relations existent et soient bonnes avec les deux parties, et le fait aussi que Alger, depuis le début de l'ASMO, a été quand même un point focal pour de nombreux VIP occidentaux, états-uniens, britanniques, français notamment, qui se sont rendus en Algérie pour discuter de questions liées à l'énergie, liées à la migration, liées aussi aux conséquences de ce conflit. Donc, je pense que l'Algérie a certaines chances. Maintenant, est-ce que cette médiation peut avoir l'oreille des États-Unis et avoir l'oreille aussi du président Zelensky, je ne sais pas. Je pense que dans le cadre de la visite du président Tebboune, il pourrait y avoir une sorte de package de recommandations qui pourraient être formulées par le président Poutine, de recommandations ou bien de propositions. Qui pourrait être faite par le président de la Fédération de Russie et qui pourrait permettre l'ouverture de négociations. Quant à leur succès, je pense que cela va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, l'intention est là. Elle a été formulée par le président Tebboune et, comme je l'ai dit auparavant, l'Algérie est en position réellement de force pour négocier avec toutes les parties.
C'était Akram Karieff, expert sécuritaire et de défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une petite pause. Mais rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM. De retour sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ici Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je salue les auditeurs et les auditrices de la station qui viennent de nous rejoindre, mais aussi ceux qui nous écoutent depuis d'autres pays via le site internet de Maliba FM. La Cour pénale internationale de La Haye recherche Vladimir Poutine. L'institution a émis un mandat d'arrêt contre le président russe et la commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Le Kremlin a réagi en déclarant que cette décision n'avait aucune valeur juridique, et pour cause. La Russie n'a pas ratifié le traité de Rome de 1998 qui a statué sur la création de la CPI. Fait curieux, les États-Unis ne sont pas non plus signataires de ce document. C'est également le cas de nombreux pays africains. En Afrique, le lancement de ces poursuites contre Vladimir Poutine a fait réagir. Le président du Parlement zimbabwéen, Jacob Mulenda, a affirmé que les pays occidentaux manipulent à leur gré le droit international. Pour étayer ses dires, il rappelle qu'il y a tout juste 20 ans, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus en Irak sous prétexte que des armes de destruction massive y avaient été développées, bien que cela se soit avéré faux plus tard. Monsieur Mulenda a conclu en rappelant qu'aucune sanction n'avait été imposée à leur encontre, tandis que dans le même temps, la CPI s'est empressée de délivrer un mandat d'arrêt contre le président russe. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo connaît bien la CPI. En 2011, un mandat d'arrêt avait été émis contre lui et il avait été détenu à La Haye. 10 ans plus tard, l'ex-chef d'État avait été acquitté. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, nommé Esso, représentant en Russie du parti de M. Gbagbo, le parti des peuples africains, a mis en évidence les similitudes entre le cas de Vladimir Poutine et celui de l'ex-président ivoirien.
La Cour pénale internationale a émis vendredi un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. La Russie, d'ailleurs, ne reconnaît pas ce tribunal, ni sa juridiction, ni les décisions de cette cour, aussi bien que certains autres pays du monde, dont par exemple les États-Unis. En 2011, cette même cour avait émis un mandat contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il a fallu 10 ans avant qu'il ne soit acquitté. Quels commentaires pouvez-vous faire de cette situation, notamment avec ce nouveau mandat d'arrêt contre le président russe?
Ce que je veux d'abord dire, c'est que la déportation du président Gbagbo à la CPI, son jugement et son acquittement après 10 ans de procès inique, ont confirmé le sentiment que les Africains en général et en particulier les Ivoiriens ont et gardent de cette institution qui n'est rien d'autre que le bras séculier du dispositif de recolonisation de l'Afrique par l'Occident. Pendant ces 10 années volées à la Côte d'Ivoire dans sa longue lutte de libération du joug français et occidental, les peuples ivoiriens et africains ont assisté à la négation du droit comme garant de la paix et de la justice entre les peuples du monde. Toute chose qui consacre l'immoralité et l'illégitimité de cette institution qui a fait fort au cours de ce procès par les irrégularités procédurales qui l'ont rythmé. Le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine vient confirmer ce sentiment que nous avons éprouvé et éprouvons encore aujourd'hui vis-à-vis de cette CPI. Les missions de ce mandat d'arrêt présentent en soi un manque de respect et de considération à l'égard du peuple russe et de son président, le président Vladimir Poutine, qui défendent les valeurs universelles de l'humanité. Pour nous, Ivoiriens et Africains, c'est un non-événement qui choque par sa vulgarité. Cette décision, dans le fond, déshonore l'institution, ses animateurs et ceux et celles qui les manipulent. J'irai plus loin en disant que la Cour pénale internationale, ou du moins ses dirigeants et son procureur, doivent être poursuivis en justice. Pour moi, c'est ça. Oui, je le dis parce que, prenons par exemple la procédure contre le président Gbagbo qui était rythmée d'irrégularité. La Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome lorsque le président a été déporté le 30 novembre 2011. Quelle était la base juridique pour cette déportation? Si ce n'était qu'un arrangement entre amis pour humilier quelqu'un qui était trop gênant pour la France. C'est la même chose que le président Vladimir Poutine, pour le président Vladimir Poutine actuellement. Mais la CPI n'est pas crédible. Lorsqu'elle agit de cette façon, elle n'est pas crédible. Les compétences qu'elle a sont les suivantes. La CPI peut émettre un mandat d'arrêt lorsque la personne accusée est un ressortissant d'un État membre. Lorsque le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies transmet l'affaire ou lorsque les juridictions nationales n'ont pas la capacité de juger ces crimes internationaux, des crimes internationaux. Mais on voit que ici, la CPI n'est compétente d'aucune manière pour émettre un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine. Et c'est déplorable pour cette Cour qui, à chaque fois, décrédibilise aux yeux du monde et des Africains en particulier. Donc c'est ce que je peux dire concernant ce point.
Merci. Et qu'en pensez-vous cette nouvelle décision de la Cour pénale internationale? Est-ce que cette nouvelle décision peut perturber encore plus le système du droit international?
Bien sûr. Parce que en elle-même, la Cour pénale internationale se donne des normes pour agir, mais elle ne respecte pas ces normes. Ça va obligatoirement perturber les choses et ça perturbe actuellement les choses parce qu'elle est partiale. Elle est vraiment partiale et elle agit au-delà de toutes les règles de droit qui puissent exister. Les peuples sont fondés sur des règles et sur le respect des règles qu'on se donne. Si les institutions internationales ne peuvent pas respecter les bases juridiques qui sous-tendent leur existence, à quoi est-ce qu'elles servent? Et pour moi, ce mandat d'arrêt est vraiment quelque chose de très grave, qui est inacceptable en fait.
Maintenant, sur fond du conflit ukrainien, on ne parle presque pas des exactions dans le Donbass. qui ont commencé assez longtemps, qui ont commencé en 2014. Et ces exactions et crimes commis par des groupes radicaux ukrainiens dans le Donbass ont été d'ailleurs documentés par plusieurs experts indépendants, sans malheureusement qu'il n'ait de poursuite de leurs auteurs. Pensez-vous que la Cour pénale internationale, qui n'a pas réagi à ces exactions, est vraiment indépendante dans la sélection de dossiers et de jugements?
Merci pour cette question. Vous savez, le cas de la Côte d'Ivoire est un cas école. Et elle ressemble, ce cas-là, pardon, ressemble pratiquement trait pour trait au cas, à ce qui se passe actuellement dans le Donbass. En Côte d'Ivoire, en 2002, alors qu'il y avait un président élu par les Ivoiriens, le pays sera attaqué par une rébellion. Et cette rébellion a commis de graves exactions dans le nord, le centre, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque la Cour pénale existait, mais elle ne s'est pas saisie, il n'y a rien eu pour dénoncer ces crimes. Et même quand le président a été déporté à la CPI et que les avocats du président ont demandé à ce que soient pris en compte ces crimes de depuis 2002 à 2010, la Cour pénale internationale a refusé de prendre en compte ce qui s'est passé en 2002 et de prendre seulement en compte la crise post-électorale. Elle a simplement fermé les yeux sur ce qui s'est passé de 2002 à 2010. C'est la même chose dans le Donbass. Depuis 2014, il y a de graves exactions, comme vous le dites, documentées, preuves à l'appui. Mais la Cour pénale internationale n'a rien fait. Ils n'ont pas bougé le petit doigt pour réagir, rien du tout. Et puis aujourd'hui, comme par enchantement, on vient émettre un mandat d'arrêt contre le président Poutine.
Cela veut dire qu'au lieu d'être un instrument de justice, vous voyez le rôle de la CPI comme un instrument soit d'humiliation ou même de élimination de quelqu'un.
Oui, la CPI est un instrument d'humiliation. La CPI est un instrument pour humilier des leaders qui gênent l'Occident. C'est ce que je dis. Je dis que c'est quand vous avez la chance que vous arrivez à la CPI. Mais sinon, les Occidentaux, c'est, ça arrange à ce que vous disparaissez de la surface de la Terre. Voilà, c'est ce que je dis.
Et la dernière question, si vous permettez, les pays africains pourraient-ils, selon vous, se retirer de la CPI pour former une cour alternative continentale avec une compétence similaire sur le continent africain?
Oui, je pense que c'est possible et c'est une chose que les peuples africains doivent faire. Mais avant cela, il y a un préalable qui se pose. C'est que les peuples africains doivent engager et gagner le combat de leur véritable indépendance. Parce que tant que cela ne sera pas fait, il y aura toujours des personnes qui vont tirer les ficelles. Les organisations continentales ou sous-régionales seront toujours aux ordres de l'Occident. Donc il est important que les peuples africains se battent pour gagner le combat de leur véritable indépendance. Et puis ensuite, ce projet-là peut être mis en place. Mais ce que je tiens déjà à souligner, c'est qu'il existe en Afrique la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait aussi ce qu'elle peut. Mais il faut donner des moyens à ce projet de cour continentale de pouvoir exister. C'est-à-dire qu'on parle de moyens, on parle de juges intègres. Parce que quand vous regardez la CPI, ce n'est pas un exemple. Et pourquoi ce n'est pas un exemple? Parce qu'il y a un problème d'intégrité de ceux qui la dirigent. Donc, pour que les Africains, cette cour continentale soit crédible aux yeux des Africains, il faut que les moyens qui sont donnés ne sont pas d'abord des moyens financiers, mais des moyens humains. c'est-à-dire des personnes qui sont intègres, des magistrats, des hauts fonctionnaires qui sont intègres. Ensuite, les moyens financiers viennent accompagner de la force au travail qui sera fait par ces magistrats, etc., etc. Ça permet d'avoir des enquêteurs qui pourront déployer tout l'expertise qu'il faut pour pouvoir donner les résultats qu'on attend d'eux. C'est seulement à ce prix-là que cette cour pourra exister et être crédible et donner les résultats qu'on attendait en fait.
C'était Nomé Esso, représentante en Russie du Parti des Peuples Africains. Elle a commenté pour Spoutnik Afrique le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Vladimir Poutine par la CPI. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je vous invite à consulter notre site afin de vous informer sur l'actualité internationale et africaine. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.